Et il est tout juste 14h30 à Paris, tout de suite Afrique Midi, présenté par Nicolas Brousse. Nicolas, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Le jour de gloire est-il enfin arrivé pour le Paris Saint-Germain? La réponse ce soir avec la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Et le pronostic dans un instant, pronostic d'un ancien joueur du PSG, l'ex-international ivoirien Bonaventure Kalou. Le PSG qui compte des supporters partout, y compris au Maroc. Notant que le vice-capitaine est un certain Achraf Hakimi, reportage à suivre dans le désert marocain. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Il a rencontré hier les têtes de l'exécutif ivoirien, président et Premier ministre. Objectif, renforcer les liens économiques, mais pas seulement. Nous appellerons notre correspondant à Abidjan. La RDC accueille, elle, cette semaine, une délégation de parlementaires européens venus officiellement afficher le soutien du Parlement européen au peuple congolais. L'occasion de s'entretenir de la crise sécuritaire qui frappe notamment l'est de la République démocratique du Congo, même si les députés européens sont restés à Kinshasa. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue. On tourne ensemble la première page. Et on commence donc par un tour de chauffe avant la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan ce soir, 19h temps universel, un match attendu à suivre sur RFI et qui sera très suivi à n'en pas douter puisque le PSG pourrait décrocher pour la première fois de son histoire ce trophée face aux Italiens qui, eux, ont déjà remporté le titre trois fois, 1964 et 65, et 2010 avec un certain Samuel Eto'o, alors avant-centre. Donc, ça ne sera pas facile face aux Italiens pour les Parisiens, mais pas impossible. C'est en tout cas l'avis de l'ancien international ivoirien, désormais retraité, Bonaventure Kalou, celui qui est aussi ancien joueur du PSG, était dans les studios de RFI ce matin.
C'est du 50-50. C'est vrai qu'il y a un léger avantage pour Paris au niveau des valeurs intrinsèques en attaque au milieu. Mais ça vous donne pas un avantage abyssal. Donc, ce sera un match assez ouvert. Deux équipes qui vont bien défendre d'abord. Donc, le premier qui prendrait un but aura du mal à revenir.
Bonaventure Kalou, l'aura du PSG dépasse bien sûr les frontières de la capitale française. Le Paris Saint-Germain, c'est l'un des grands clubs mythiques qui s'est attiré les pointures du monde entier. Exemple, si besoin est, avec Achraf Hakimi. Il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Il vient d'ailleurs de remporter le prix Marc Vivien Fauet, RFI France 24 cette année. Et il est le vice-capitaine des Parisiens pour la plus grande fierté des amateurs de football marocains. Et ils sont nombreux, y compris dans les régions les plus désertiques du Maroc. Reportage dans le désert d'Agafay au sud de Marrakech de François Humfer Kataji.
Dans les collines arides d'Agafay, personne n'a raté l'information parue mi-mai dans la presse marocaine. Le joueur du PSG a profité des quelques jours de repos accordés par le club pour venir se reposer dans ce paysage désertique prisé des touristes. Kaoutar regrette de ne pas l'avoir croisé.
J'aurais été vraiment trop heureuse de le voir, mais c'est déjà trop cool qu'il soit venu visiter le désert d'Agafay.
Ahmed possède des plantations d'arganiers dans la région.
Il est venu pour relaxer et pour concentrer sur le match. Parce que le match de finale, c'est un grand match.
Ce soir, sans aucun doute, il supportera
Le PSG. Je souhaite que Achraf Hakimi, il va gagner la coupe. Achraf, c'est un phénomène au Maroc.
Au Maroc et au-delà des frontières, Mohamed Mougri, vendeur de souvenirs, en sait quelque chose. Sur les 100 maillots d'Hakimi commandés en début de semaine, il ne lui en reste plus que deux.
On est beaucoup détenus avec Hakimi, on a vendu beaucoup de t-shirts.
Ce soir, tout le monde ou presque sera devant le match, pour certains entre amis.
À Marrakech, dans un café, dans une ambiance.
Et pour d'autres, comme ce professionnel du tourisme, pendant les heures de travail, pour ne rien rater des exploits d'Hakimi.
Je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai un travail.
Si le PSG pourrait remporter la première Ligue des Champions de son histoire, Hakimi, lui, ajouterait une deuxième coupe aux grandes oreilles à son palmarès déjà bien riche pour un joueur de 26 ans. François Humfer Kataji, Marrakech, RFI.
Et pour ceux qui ne seront pas devant leur écran, soirée spéciale proposée par le service des sports d'RFI, prise d'antenne 20 minutes avant le coup d'envoi. Rendez-vous donc à 17h40 temps universel, juste après Afrique Soir. La rédaction internet est mobilisée également avec un live blog sur RFI.fr. Au Nigeria, le bilan des inondations s'alourdit encore ce samedi. On déplore au moins 150 morts et des dizaines de blessés dans la ville de Mokwa, située au centre du pays, près du fleuve Niger. Un chiffre encore provisoire, comme le redoutent les secouristes qui fouillent les décombres de 265 maisons. Chiffre encore provisoire, d'autant qu'une cinquantaine d'enfants d'une école coranique sont toujours portés disparus. Plus de 3000 habitants ont dû être déplacés. Le président nigérian Bola Tinubu a publié cette nuit sur les réseaux sociaux un message dans lequel il assure que les forces de sécurité sont déployées pour aider les premiers secours. Il ajoute que du matériel et une aide temporaire pour l'hébergement sont déployés sans délai. Voilà qui redorera peut-être l'image des forces de l'ordre ternie par cette annonce cette semaine de l'armée nigériane. L'arrestation d'une bonne trentaine de soldats et policiers soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'armes. Amélie Tulé, vous nous avez rejoint en studio. C'est le résultat d'une opération lancée depuis bientôt un an pour lutter contre les vols d'armes et de munitions.
Oui, c'est un enjeu devenu crucial pour le Nigeria. Comment limiter l'accès aux armes des groupes contre lesquels l'armée se bat? Groupe djihadiste dans la partie nord-est du pays, dans le centre-nord, conflit entre agriculteurs et éleveurs. Un mouvement sécessionniste dans le sud-est et une vague d'enlèvements dans le nord-ouest. L'opération Snowball, destinée à lutter contre le trafic de munitions sur les terrains où l'armée est engagée, enregistre des succès selon Ademola Owolana, un des porte-parole de l'armée nigériane. Ainsi, les militaires qui luttent contre Boko Haram dans le nord-est ont arrêté récemment 18 soldats, 15 policiers, mais aussi 8 civils, dont un chef traditionnel. Ils sont accusés d'avoir détourné délibérément des armes et des munitions. Et sur les comptes bancaires d'un armurier et d'un inspecteur de police, d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées. L'armée nigériane promet des sanctions sévères et assure que l'opération de lutte contre le trafic d'armes est en cours dans 11 États du pays. L'annonce de ces arrestations intervient par ailleurs une semaine après les déclarations du gouverneur de l'État de Borno. Babagana Zulum dénonce le double jeu de certains acteurs politiques et militaires au Nigeria qui continuent, selon lui, d'être des informateurs et des collaborateurs des groupes issus de Boko Haram.
Dossier suivi par Amélie Tulé. Ousmane Sonko poursuit son déplacement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre du Sénégal fait actuellement une visite de travail et d'amitié. Hier après-midi, il a rencontré son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, avant un entretien avec le président Alassane Ouattara. Objectif affiché, renforcer les liens, notamment commerciaux, entre les deux pays. Mais Benoît Almeras, vous qui avez suivi cette visite à Abidjan, il a également été question de la sécurité et des relations diplomatiques au sein de la sous-région.
Nous œuvrons pour une sous-région pacifique, intégrée, orientée vers le développement économique, la sécurité et la stabilité politique. Ousmane Sonko résume sa vision 5 minutes de déclaration après une séance de travail d'1h30 avec son homologue Robert Beugré Mambé et une dizaine de ministres ivoiriens. Le chef du gouvernement sénégalais dit notamment vouloir avancer dans les 6 mois sur la levée des barrières douanières et des tracasseries dans les relations commerciales jugées insuffisantes entre les deux pays. 5 minutes, c'est aussi la durée de la prise de parole d'Ousmane Sonko à l'issue de 2 heures d'entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Une entrevue au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et les moyens de renforcer la fraternité dans la sous-région. Et ce, 2 semaines après la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso, alors qu'Abidjan et Ouagadougou sont en froid. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et pendant ce temps, sur la scène politique ivoirienne, la Coalition pour l'alternance pacifique tient meeting aujourd'hui à Yopougon. Ce groupement de partis de l'opposition rassemble entre autres le PDCI, le COGEP de Charles Blé Goudé ou encore le MJC de Simone Eyvet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. À moins de 5 mois de la présidentielle, la CAPCI réclame un dialogue politique avec le pouvoir et la réinscription des leaders politiques radiés de la liste électorale. À l'image de Charles Blé Goudé ou encore de Tidjane Thiam, le président du PDCI. En République démocratique du Congo, cette visite-là s'est achevée, celle d'une délégation de 11 députés européens arrivés mardi soir dans la capitale, Kinshasa, où ils ont été accueillis par des sénateurs et députés congolais. Le but premier de cette mission était officiellement de montrer le soutien du Parlement européen au peuple congolais. Mais la délégation s'est aussi et surtout entretenue avec plusieurs acteurs majeurs de la crise sécuritaire qui secoue le pays. On parle bien sûr de l'Est, où des territoires sont aux mains du groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda. Avec un bémol, les visiteurs européens ne sont pas allés sur place. Ils sont restés dans la capitale. Envoyée spéciale permanente à Kinshasa, Pauline Azidi.
La délégation a rencontré le président Tshisekedi, des parlementaires congolais, des représentants des églises, mais aussi des membres de l'opposition, avec un message: il faut travailler ensemble pour la paix. Les parlementaires se sont dit inquiets de la catastrophe humanitaire. Ils demandent des couloirs sécurisés, un pont aérien vers Goma pour répondre aux énormes besoins des populations, tout en pointant la responsabilité du voisin rwandais dans la crise. Hilde Wotsmans est la chef de délégation.
Nous condamnons fortement et sans réserve les actes violents du M23 soutenus par le Rwanda et nous dénonçons leur tentative persistante de déstabilisation de la RDC. Le Rwanda doit se positionner d'urgence dans ce conflit et répondre à l'appel à cesser tout soutien aux acteurs déstabilisateurs dans la région. Nous réitérons notre appel à la suspension du protocole de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda et nous ferons tout dans notre mandat pour le garantir.
Et les parlementaires européens de reconnaître qu'il leur faut aller à l'est du pays pour réaliser toute la dimension de cette crise, peut-être cet automne. En attendant, ils promettent de travailler à une nouvelle résolution au Parlement européen. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense s'en prend à RFI. Nous vous parlions jeudi d'un massacre commis par les volontaires pour la défense de la patrie dans des villages autour de Dori et Gorgadji. Mais Wali Diallo, selon les termes du communiqué publié par le ministre de la Défense burkinabé, les faits rapportés ne seraient, je cite, que des allégations graves et diffamatoires.
L'article à l'origine du communiqué relate le massacre commis par les VDP le 21 mai. Ce jour-là, plus d'une centaine de civils ont été tués entre Tafagou et Nobiol. De nombreux témoignages, images et vidéos authentifiées attribuent la responsabilité du massacre à un convoi de l'armée et des VDP. Des faits qui sont présentés par le ministre de la Défense burkinabé comme visant à déstabiliser le pays et à ternir l'image de l'armée et des VDP. Dans son communiqué, Célestin Sempore rappelle l'engagement inébranlable du gouvernement à la protection des civils et au respect des droits humains. 10 jours à peine avant l'attaque rapportée par RFI, Human Rights Watch dénonçait les massacres ethniques perpétrés par l'armée burkinabé. Dans un communiqué, l'organisation détaille le massacre de plus de 130 civils Peul dans les environs de Solenzo. Dans son communiqué, le ministre burkinabé de la Défense invite les populations à rester prudents face aux informations qu'il qualifie de propagandistes et réaffirme la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme, sans pour autant préciser les avancées sur le terrain.
Wali Diallo, et on notera qu'une dizaine d'heures seulement après sa publication, le communiqué a été retiré de la page Facebook du ministère de la Défense burkinabé, ainsi que de celle du service d'information du gouvernement qui l'avait relayé. En Centrafrique, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a rencontré hier les professionnels des médias à l'occasion de la deuxième édition du Déjeuner de la presse au Palais de la Renaissance à Bangui. Un moment d'échange qui a permis aux journalistes et au président d'aborder tous les sujets touchant à la vie de la Centrafrique. Et vous y étiez, Rolf-Steph Domialeu, correspondant des RFI à Bangui.
Les discussions se sont articulées autour de 5 thématiques, la diplomatie, l'économie, les faits de société, la politique et la sécurité. À la question « Pourquoi la RCA a cessé de collaborer avec ses anciens alliés au profit de la Russie ?», le président Faustin Archange Touadéra répond.
Nous voulons une relation avec tous les pays amis qui veulent coopérer avec nous, en respectant notre souveraineté et en privilégiant aussi nos intérêts. C'est ça notre ligne. Nous n'avons exclu aucun pays. Aucun.
Depuis le mois d'avril, des affrontements opposent les miliciens Azande Anikpigbe aux forces armées centrafricaines et leurs alliés russes dans la préfecture du Umbomo au sud-est du pays. Ces combats ont provoqué des déplacements massifs de population, des tueries et des scènes de pillage. Le gouvernement assure avoir pris des mesures.
Nous allons travailler pour que ces gens de groupe Azande Anikpigbe puissent retrouver la raison. Il y a déjà un gros déploiement là-bas. L'armée va se déployer pour protéger la population. J'apprécie le travail que les autorités là-bas font parce que beaucoup sont en train de se désarmer. Nous allons continuer à travailler pour convaincre nos compatriotes qui sont là-bas à retourner dans la République.
Concernant le journaliste Londringue Mangopele, emprisonné depuis 3 semaines, Faustin Archange Touadéra appelle les journalistes au calme et les invite à laisser la justice faire son travail. Rolf-Steph Domialeu, Bangui, RFI.
Direction Bouéa dans le sud-ouest du Cameroun, où Joseph Dionguti, le Premier ministre, a présidé la 6e session du comité directeur du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. S'il salue le retour des élèves dans les écoles, il ne cache pas qu'il faut encore beaucoup de travail et d'investissement pour remettre à niveau ces régions à majorité anglophone, alors que les autorités célébraient le 20 mai dernier la fête de l'unité nationale. Correspondance de Richard Onanena.
La vie a repris à l'école Cameroun-Arabique de Bouéa. La crise anglophone avait vidé cet établissement. Avec l'application de certaines mesures du plan présidentiel, environ 160 élèves ont depuis retrouvé le chemin des salles de classe. Un exemple parmi tant d'autres dans le Nozo, selon Joseph Dionguti, le Premier ministre reconnaît néanmoins que beaucoup reste à faire.
Évidemment, les besoins sont énormes. Je lance l'appel à ceux qui peuvent cotiser. Le gouvernement fait des efforts. Nous avons des bailleurs de fonds qui font aussi des efforts. Nous avons certains pays qui nous accompagnent déjà. Et nous demandons à ceux qui ne sont pas encore enregistrés de faire un effort pour que nous puissions multiplier les cas pareils.
Il faut dire que le plan présidentiel n'a pas suscité une grande adhésion de la part des partenaires du Cameroun. Certains conditionnant leur participation par la mise en œuvre d'un véritable dialogue pour mettre fin aux conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Entre-temps, le pays continue de lever des fonds. Paul Tasson, président du comité de pilotage du plan présidentiel.
Nous avons déjà enregistré plus de 600 milliards de financements mobilisés pour les différentes phases.
Fixé à 2500 milliards de francs CFA, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui inclut également la région de l'extrême nord, a été mis en œuvre il y a environ 5 ans. Richard Onanena, Bouya, RFI.
À 12h46, temps universel, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il me semble que je vous ai donné rendez-vous à 17h40 TU pour la grande soirée football sur RFI. Vous avez sans doute rectifié de vous-même. Il s'agit bien sûr de 18h40, temps universel, puisque le match commencera à 19h TU.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 31 mai, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition sonore, la rédaction de Jeune Afrique et un palmarès des 20 pays les plus performants d'Afrique. La semaine de Jean-Baptiste Placa, marquée par l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, l'ex-ministre des Finances mauritanien, Sidi Oulta. Et puis un mot, une histoire, chronique des amoureux de la langue française avec Lucie Bouteloup. La Une de Jeune Afrique affiche donc un palmarès inédit, celui des 20 pays les plus performants du continent. Selon quels critères ce classement a-t-il été établi? Quels pays tirent leur épingle du jeu? Léa Boutin-Rivière, vous en discutez avec le directeur de la rédaction de JIA, François Soudan.
Bonjour.
Bonjour Léa.
Cette semaine, JIA propose un classement des 20 pays africains les plus performants, un palmarès inédit qui, dites-vous, révèle ceux qui tirent le continent vers le haut, ceux qui ont les meilleures chances d'être les leaders de demain. Pour commencer, comment ce classement a-t-il été établi ?
Alors, nous sommes partis à la fois de l'idée que les comparatifs habituels de performance, hein, qui se basent sur la croissance du PIB, le produit intérieur brut ou le niveau de l'indice de développement humain, n'étaient pas à eux seuls des indicateurs suffisants. Nous sommes partis aussi du constat que les évaluations délivrées par les agences de notation étaient de plus en plus critiquées à cause de leur regard biaisé sur le risque africain et de la conviction, Léa, que la performance d'un pays, eh bien, elle n'est pas qu'économique. Elle inclut tout ce qui garantit son développement à long terme et elle est le produit d'une vision à 360 degrés de ses forces, de ses faiblesses. Alors, on a établi notre classement des 20 pays les plus performants en le faisant reposer sur un triptyque, la qualité de la gouvernance qui compte pour 50% dans la note, l'influence, l'innovation et en y agrégeant 25 indicateurs différents comme la stabilité politique, la puissance militaire, le niveau des universités, le nombre d'ambassades à l'étranger, le nombre de brevets déposés, les montants levés par les start-up, le nombre d'artistes classés sur Spotify, etc. Au total, vous l'avez dit, un palmarès inédit qui met en lumière les pays qui ont pris une longueur d'avance en se donnant les moyens de parvenir à leurs objectifs, Léa.
Et en partant de ces critères, quels sont les pays qui arrivent en tête du top 20 et pourquoi ?
Alors, sans surprise, je dirais, l'Afrique du Sud arrive assez largement en tête, même si sa gouvernance laisse à désirer. C'est le pays le plus industrialisé du continent et son avancée est considérable hein, dans les domaines de l'influence, de l'innovation, de l'éducation. Viennent ensuite au coude à coude l'Égypte et le Maroc. L'Égypte a su mettre à profit les financements massifs venus du Golfe pour se doter d'infrastructures de niveau international. Et le Maroc, qui est la première destination africaine pour le tourisme, présente un tableau équilibré dans toutes les dimensions de notre classement. Des pays peu peuplés, hein, comme le Botswana, Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, obtiennent d'excellentes notes quant à la qualité de leur gouvernance et figurent donc dans ce top 20. Un top 20 où les francophones d'Afrique subsaharienne font un peu pâle figure, Léa. Ils ne sont que trois à y figurer, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Là aussi, la qualité de leur gouvernance y est pour beaucoup.
Et puis dans ce dossier, vous consacrez un article à l'armée comme levier d'influence et vous vous penchez particulièrement sur le Rwanda.
Oui, le hard power au service du soft power. Hein. C'est très clairement le choix du Rwanda qui est devenu un acteur clé dans le domaine de l'exportation du savoir-faire sécuritaire. Le Rwanda, c'est le deuxième contributeur de casques bleus de l'ONU au monde avec près de 6000 hommes. Ce sont aussi des contingents de soldats et d'instructeurs en Centrafrique et au Mozambique, ainsi qu'un embryon d'industrie de défense endogène dont les produits ont été exposés en marge d'une récente conférence à Kigali consacrée à la sécurité. Une diplomatie à la fois militaire et économique qui lui permet de ne pas vraiment pâtir de son soutien très controversé aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Et cet article, Léa, s'intéresse également aux trois pays leaders en matière de formation des officiers venus des différents pays du continent, de par le niveau, la qualité de leurs académies militaires, le Maroc, l'Égypte et le Nigeria.
Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, avec Léa Boutin-Rivière. Et on retrouve notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
Sidi Oulta, ex-grand argentier de la Mauritanie, élu cette semaine président de la Banque africaine de développement, prendra ses fonctions en septembre prochain. Jean-Baptiste, vous évoquiez ici même la semaine dernière cette élection avec d'infinies précautions. Le résultat vous paraît-il finalement rassurant pour l'Afrique ?
À présent que la messe est dite, on peut non pas questionner les aptitudes et éventuelles lacunes de certains prétendants, mais juste s'étonner que tel candidat d'Afrique centrale, pris en flagrant délit de népotisme dans des fonctions antérieures, ait pu aspirer à ce poste qui requiert impartialité, doigté et sens de l'intérêt général. Pour l'Afrique, c'est un véritable drame que de devoir subir les élites qui traînent d'institution en institution leurs tares et échecs personnels. À la BAD, les problèmes sensibles que l'on retrouve dans la plupart des États sont multipliés par 50. On ne peut donc la livrer à une élite capable de privilégier la médiocrité d'une culture de clan au sort d'1,5 milliard d'Africains. Ce n'est pas nécessairement le meilleur candidat qui l'emporte, mais le niveau général est d'ordinaire suffisamment bon pour qu'un candidat qui a franchi l'étape de la présélection puisse théoriquement diriger cette banque où les compétences internes sont d'ailleurs telles que l'institution peut tourner normalement sans président. En ces temps de déficit de respectabilité pour l'Afrique, le président dont a urgemment besoin la BAD est un leader d'envergure, capable d'imagination, de créativité, de vision, pour soustraire l'Afrique aux préjugés imbéciles dans lesquels l'enferment encore trop souvent certains.
Jean-Baptiste, quels sont ces préjugés ?
Tel suggère, par exemple, que les difficultés de l'Afrique à se nourrir résultent de l'incapacité du paysan africain à travailler comme les autres. En oubliant que sous le chaud soleil, le paysan africain, avec sa houe rudimentaire, déploie parfois 5 fois plus d'énergie de ses muscles que les autres qui, eux, ont des engins agricoles mécanisés pour labourer leurs terres scientifiquement irriguées. Le paysan africain n'est pas paresseux, mais juste mal équipé. La BAD et les banques sous-régionales de développement devraient, en premier, trouver à tous des solutions, y compris coopératives, pour que la force de travail de ces paysans soit mieux utilisée. Les artisans du continent qui subissent des délestages intempestifs d'électricité, amputant gravement leur productivité, ne sont pas plus des fainéants. L'éducation, la santé et tant d'autres secteurs qui portent les conditions déterminantes de ce que l'on appelle le développement peuvent s'améliorer avec une BAD plus proche des préoccupations de tous. Cela n'enlève rien à l'incurie de certains gouvernements incapables parfois de simplement constituer des dossiers crédibles pour accéder aux financements disponibles.
Bon, mais alors où sont les certitudes d'espérance ?
Taïwan, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud qui étaient au même stade que les mieux portants des États africains dans les années 70, disent aujourd'hui du développement « mission accomplie ». Ils sont passés au stade supérieur. Le pire serait que les peuples africains en soient à toujours se demander dans 40 ans à quoi peut bien ressembler le développement. La crédibilité de la BAD réside plus que jamais dans sa capacité à proposer aux Africains des objectifs ambitieux en précisant comment, par étapes, les atteindre. Babacar Ndiaye, président de la BAD entre 1985 et 1995, avait conforté la crédibilité de l'institution en l'inscrivant durablement dans les notations des grandes agences. Il avait initié la création d'une banque africaine d'import-export pour que les États d'Afrique puissent vendre entre eux et hors du continent. Il a poussé à la création d'une table ronde des hommes d'affaires africains en se promettant de pousser le moment venu à la jonction de ces deux entités avec la BAD dans un objectif précis qu'aucun de ses successeurs n'a vraiment repris. Sans continuité dans les ambitions, l'Afrique pourrait ainsi végéter encore longtemps. Et tous ces présidents qui prétendent avoir opéré des miracles parce qu'ils ont simplement bien fait leur travail convaincront d'autant moins que les peuples du continent ne perçoivent dans leur quotidien aucun signe de ces miracles.
La semaine de Jean-Baptiste Placa à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Avant de se quitter, qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot disparu, un mot du 19e, un mot du peuple parisien, un mot de la Bible qui est descendu dans le ruisseau.
L'histoire commence au fond des temps. Voilà les premiers mots des contes de la Loire que la romancière et traductrice Agnès Michaud vient de publier. Des contes régionaux, souvent oubliés, un peu comme certains des mots rares que l'autrice aime débusquer pour les remettre au goût du jour. La preuve avec le mot dont elle a choisi de nous parler pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « golgoté ». Parce que c'est un mot d'argot du 19e siècle et que j'adore l'argot et que j'adore le 19e siècle. Alors, comme on s'en doute, « golgoté », ça veut dire se poser en martyr et par affaiblissement, ça veut dire de manière très courante « geindre, chouiner, se plaindre sans arrêt », voilà. Ce qui est formidable dans l'argot, c'est la vivacité. C'est la langue en transformation. Ça change vite, l'argot. Et puis, moi, ce que j'aime dans ce mot, en dehors du fait que c'est un néologisme et que j'adore les néologismes, c'est l'irrévérence. Ça, pour moi, c'est un mot très français. C'est-à-dire s'emparer d'un mot religieux, le Golgotha, et d'en faire un mot de la langue courante, d'en détourner un peu le sens, de se moquer. Donc, très vite, c'est pour ça qu'il y a de l'irrévérence. C'est que la douleur est oubliée et ça sert à stigmatiser l'emmerdeur. Donc voilà.
C'est un mot qui est quand même peu connu. Est-ce que c'est ce qui vous plaît aussi dans ce mot, le fait qu'il soit rare?
La rareté, c'est toujours très précieux. Je vais vous dire comment je l'ai découvert. En fait, je travaillais sur ma bio de Huysmans et Huysmans utilisant beaucoup d'argot. Je cherche sur Gallica un dictionnaire d'argot du 19e siècle pour me mettre à jour un peu. Et quand je suis tombée sur Golgoté, vraiment, je suis tombée en arrêt, comme on tombe en arrêt devant un paysage. C'est-à-dire que, waouh ! Mais quelle merveille ! Inventer des mots, le néologisme, c'est une des choses que je trouve les plus fertiles de la langue française. Et puis, on a besoin de tous les mots. Et plus il y en a, et mieux c'est. Et quand on peut les faire ressurgir, les faire survivre, et en ajouter des nouveaux, l'argot d'aujourd'hui est formidable aussi. Il faut s'en servir.
C'est un mot que vous aimez utiliser, vous, quand vous écrivez?
Alors, je ne m'en suis encore jamais servi, mais ça va arriver. Et j'aime bien m'en servir dans la vie, et ça fait beaucoup rire mon fils. J'ai cette réflexion parce que quand mon fils, un jour, a dit « daron », moi, je n'avais personnellement jamais entendu ce mot dans ma génération. Donc, vous voyez, la manière dont les mots ressurgissent reste très mystérieuse.
Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le verbe « golgoté » signifie « souffrir le martyr » comme le Christ en croix. Il vient de Golgotha, la colline de Palestine située près de Jérusalem où avaient lieu les mises à mort et sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française.
Et avec aujourd'hui Agnès Michaud qui vient de publier Les Contes de la Loire aux éditions Grasset. Vous pouvez la retrouver en podcast dans l'émission De Vive Voix. On espère que vous n'avez pas trop golgoté à l'écoute de cette édition d'Afrique Midi, mise en part Mickaël Goncalves, rédaction en chef Frédéric Gara avec Pierre Vallée. On va marquer une pause, une minute, pas plus, et ce sera évidemment le retour de l'information sur Radio France Internationale. À tout de suite.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
Géopolitique. Le trumpisme naît de la rencontre entre un personnage hors norme, Donald Trump, et un socle électoral républicain en recomposition, apparaît comme un phénomène majeur et bouleverse le paysage politique américain. Il réunit autour de lui chrétiens évangélistes, conservateurs et titans de la tech. Le trumpisme s'impose-t-il comme une force politique durable et dominante ? Réponse avec la chercheuse Maya Candel dans Géopolitique avec Marie-France Chatin, tout à l'heure à 17h10 TU.
RFI.